Well, it seems to me that everybody speaks about Europe all the time today.
L'Europe de peuple.
L'Europe, c'est à la fois trop petit et trop grand.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut changer ça?
I fucking love Europe.
Full Continental, épisode 33, la mensuelle. Diplomatie, fiscalité et dessin animé.
Full Continental. Caroline Gillet. Sur France Inter et la RTBF.
Bonjour à tous, bienvenue dans Full Continental. Une fois par mois, nous ne sommes pas sur le terrain, nous sommes en studio à Paris pour parler et décrypter ce qui se passe à Bruxelles. Et en guest star, pour témoigner de tout ça, il y a Maxime Caligaro, que j'invite à cette occasion à déjeuner à la cantine de Radio France, avant le studio. Bonjour Maxime.
Salut Caroline.
T'as mangé quoi ce mois-ci à la cantine ?
Poulet à la réunionnaise et brocoli vapeur.
Et alors ?
Pas mal, et surtout beaucoup moins cher que dans les institutions européennes.
Oui, parce que toi, tu es plutôt un habitué de la cantine du Parlement européen, tu as été eurocrate pendant plusieurs années, et tu as quitté ce monde pour écrire de la fiction, des séries, un polar, et une fois par mois, tu retournes dans ces couloirs pour enquêter sur les sujets dont il a été question ici, dans cette émission Full Continental. Tu prends rendez-vous dans les bureaux d'assistants parlementaires, dans les bureaux de lobbyistes, méchants ou gentils. Tu rencontres les fonctionnaires, en off ou en on. Et même parfois, tu vas boire des coups sur la célèbre place des afters d'eurocrates, la place Luxe. C'est le jeudi soir pour creuser tes enquêtes. Et chaque fois, les sujets sont un peu plus ardus. Il y a eu les lanceurs d'alerte et les lobbies faciles. Et puis, il y a eu la PAC, l'euro et les règles des 3%, ce qui est déjà un petit peu plus compliqué. Et ce mois-ci, on a mis la barre très haut. Fiscalité et diplomatie. Allez, bonne chance.
Full Continental sur France Inter.
Mais avant tout, comme les élections européennes approchent et qu'au-delà de la politique nationale, on a parfois du mal à appréhender les enjeux de ces élections européennes, je t'ai demandé dans chaque mensuel depuis janvier de nous raconter les grands groupes politiques au Parlement européen et de nous présenter leurs poulains, ceux qui sont candidats pour remplacer Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne. C'est ça,
simple? C'est tout à fait ça.
D'accord, très bien. Et comme, vu de l'extérieur, c'est pas franchement haletant et que tu avais envie de nous convaincre que, en fait, si, ça l'était, haletant, tu as proposé des métaphores. En janvier, tu as comparé le candidat conservateur à Frank Underwood, le politique retors de la série House of Cards, et c'était assez glaçant. En février, tu t'es dit qu'avec le candidat socialiste, on était plus proche d'un Leonardo DiCaprio sur Titanic. Le mois dernier, les libéraux, tu t'es dit, mais bien sûr, c'est comme les X-Men. Et ce mois-ci, on passe aux Verts. C'est qui, les Verts au Parlement européen ?
Alors, les Verts au Parlement européen, c'est un petit groupe, hein, une cinquantaine de députés sur 750 au total, et c'est un mix entre des écolos venus d'un peu partout, mais aussi des partis pirates qui défendent la liberté du net, et des partis régionalistes comme les Corses, les Écossais ou les Catalans. Mais le gros des troupes reste écolo, et leur champion pour prendre la tête de la Commission européenne s'appelle Passeig Out.
Et on épellera son nom sur le site de l'émission.
Voilà, Passeig Out, c'est un néerlandais, il a 42 ans, il est député européen depuis 2009, et avant d'être un politique, c'était un scientifique. Il a notamment été l'un des co-auteurs du rapport du GIEC. Et Passeig Out a décidé de lâcher sa blouse de scientifique pour devenir député, et cette année, il s'est même dit que le meilleur moyen de sauver la planète, ce serait de devenir carrément président de la Commission européenne. Alors il fait campagne en duo avec une Allemande qui s'appelle Ska Keller, et elle est rentrée au Parlement à l'âge de 27 ans, et son combat politique, ce sont les réfugiés. Alors, Ska Keller, moi je la connais pas vraiment, mais Passeig Out, si. J'étais présent lors de négociations au Parlement européen dans lesquelles il était impliqué. Il était assez impressionnant, il n'était pas vraiment censé être là, c'était pas son dossier, mais il s'y était intéressé, il était resté jusqu'aux petites heures du matin, sans ouvrir la bouche, juste pour mettre la pression politique sur un député avec qui il avait passé un accord pour s'assurer qu'il allait le respecter.
Et alors, quelle référence cinématographique pour Passeig Out et Ska Keller, tu nous proposes quoi?
Alors, plutôt qu'un film ou une série, cette fois-ci, j'ai cherché un dessin animé. Parce que quand j'ai demandé autour de moi ce qu'il fallait penser de ces deux-là, un conseiller vert m'a dit qu'ils avaient, je cite, « des tronches d'enfants sages ». Et qu'on pouvait facilement ne pas les reconnaître dans une des manifs de lycéens pour le climat. Par ailleurs, les couloirs des Verts au Parlement européen, c'est fabuleux quand il va. Ouais. Tous les murs sont couverts de posters, on dirait une chambre d'ado. Et là, au milieu des posters, j'ai repensé au dessin animé Captain Planet. T'avais ça en Belgique ?
Alors sûrement, mais j'ai dû passer à côté de cette grande œuvre écologiste.
Bah, Captain Planet, c'est un dessin animé produit par Jane Fonda et qui était diffusé en France sur France 2,
ouais.
Et dans lequel on voyait un super-héros avec des cheveux verts en brosse nettoyer des plages, arrêter des tractopelles dans la forêt amazonienne et saboter des centrales à charbon. Il était accompagné d'une bande d'enfants et le générique disait « Captain Planet, c'est notre héros, il va ramener le taux de pollution à zéro ».
I am Captain Planet.
Alors Alors, cette musique, elle est éco-responsable et elle est aussi extrêmement addictive. Ça fait des jours qu'on chante Captain Planet. Dans les bureaux, c'est insupportable. Mais du coup, Captain Planet et sa colistière au Parlement européen, est-ce qu'ils ont une chance de présider la Commission européenne ?
Pas vraiment. Pour ça, il faudrait qu'ils emportent une majorité au Parlement européen. Or, c'est pas le cas. Pour les prochaines élections, un sondage européen donne les Verts perdants en nombre de sièges. Et au fond, quand on y pense, c'est étrange parce que tous les jeunes de ma génération ont été sensibilisés aux enjeux climatiques. On a tous regardé Captain Planet, on n'a jamais autant parlé d'écologie, mais ça ne se transforme pas en vote pour les Verts. Contrairement à ceux qui regardaient Captain Planet dans les années 90, les Verts n'ont pas tout à fait fini leur croissance.
Alors il y a des sujets comme l'environnement dont on sait qu'ils sont très importants mais auxquels on a du mal à s'intéresser parce qu'ils sont ardus, techniques ou parce que c'est tellement énorme qu'on a l'impression que ça nous dépasse. C'est parfois le cas pour le climat mais c'est aussi le cas pour la fiscalité. Moi, rien qu'à prononcer ce mot, j'en frémis. Et pourtant, c'est important, la pression citoyenne dans ce domaine a participé à changer les choses. On va discuter de tout ça dans cette première partie d'émission. Ne partez pas.
Full Continental, Caroline Gillet sur France Inter.
Les fraudes, le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale, tout ça, ça ne connaît pas de frontières. On sent bien que c'est aux institutions européennes d'agir au niveau supranational. Mais ça fait des années que c'est en cours et on a l'impression que ça change pas beaucoup. Jusqu'à ce qu'il y a 3-4 ans, des révélations qui ont été faites par un lanceur d'alerte, Antoine Deltour. Je l'avais rencontré chez lui, à Épinal. Pour ceux qui avaient écouté, c'était dans l'épisode 21. Antoine Deltour avait fait une grande école. Il m'avait raconté qu'il avait été embauché chez PricewaterhouseCoopers au Luxembourg et qu'il s'était retrouvé à la sortie des études dans ce grand cabinet d'audit à faire ce travail dont il avait toujours rêvé et qu'en fait il ne s'y sentait pas bien. Il avait l'impression d'être fliqué, d'être en concurrence avec ses collègues, de travailler beaucoup et trop dur et surtout, il avait observé des comportements qui lui déplaisaient.
J'avais l'impression un peu de perdre ma vie à la gagner et c'est vrai que quand on a 20 ans c'est un peu dommage quoi. Et en plus au service d'une finalité qui au bout d'un moment je me suis rendu compte que ça me motivait pas du tout. Enfin j'avais pas du tout envie de me crever à la tâche pour des clients qui n'étaient présents au Luxembourg que pour des raisons fiscale quoi. Et c'est ce que j'ai découvert en travaillant sur place, c'est que c'était une activité quasiment industrielle, avec une administration fiscale qui tamponnait des accords fiscaux à la chaîne, sans prendre le temps de les vérifier, et des décisions fiscales donc approuvées, hein, parfaitement légales, qui permettaient de ne quasiment pas payer d'impôts. Et ça, je pensais pas que ça pouvait aller aussi loin, quoi.
Antoine Deltour a décidé de démissionner et en partant, il a fait le choix de copier des documents et de mettre à jour un vaste système de cadeaux fiscaux octroyés par le Luxembourg aux multinationales. C'est légal, mais c'est abusif et grâce à d'autres scandales révélés depuis, les Panama Papers, Football Leaks, Offshore Leaks, les lanceurs d'alerte ont fait avancer la législation en matière fiscale européenne. Alors nous, on en avait parlé aussi avec l'équipe de Désorceler la Finance à Bruxelles et eux, ils semblaient plus sceptiques sur ce qui avait vraiment évolué depuis ces scandales. Maxime, qu'est-ce que toi, tu as retenu de ton reportage à Bruxelles sur ce sujet?
À la suite de ces scandales, l'Union européenne a passé une dizaine de textes pour mettre fin au secret bancaire ou à la fraude fiscale. Un fonctionnaire européen me disait que ce qui se faisait avant en 7 ans se faisait aujourd'hui en 7 mois. Pour Pierre Moscovici, le commissaire en charge de ces dossiers, l'affaire Cahuzac, par exemple, aujourd'hui, c'est devenu impossible.
Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus un seul compte caché en Europe?
Ouais, il doit sûrement en rester. Mais aujourd'hui, la règle, c'est que les administrations fiscales des pays européens se voient les unes les autres. Il n'y a plus de secret. La France peut aller mettre le nez dans les comptes du Luxembourg et vice-versa.
Et ça, cette évolution-là, c'est donc grâce aux lanceurs d'alerte comme Antoine Deltour, au scandale?
Exactement, et c'est ce que m'a confirmé Pierre Moscovici. Il m'a raconté le genre d'ambiance qui régnait entre ministres des Finances des États européens avant que les scandales n'éclatent. Tu vas voir, c'était assez feutré comme atmosphère.
Il faut bien voir comment fonctionne l'Union européenne. La Commission est là, elle est celle qui prend les initiatives, celle qui fait les propositions, mais ce sont les États membres qui décident. Et disons que pendant longtemps, un certain nombre d'États membres, dans le secret ou la discrétion du Conseil des ministres ECOFIN, se sentaient protégés de toute pression extérieure, à l'abri du monde, pas de scandale, pas de journaux, pas de consortium international de journalistes, pas de pression des institutions internationales, soyons donc pépères, ne bougeons rien, ne touchons rien, et quand arrivaient des directives, je me souviens par exemple quand j'ai mis les finances, la discussion sur la directive sur l'épargne, ben, il y avait toujours un, deux, trois pays qui étaient là pour dire non, sans nous, Luxembourg, Autriche, quelques autres. Et donc, il fallait qu'il y ait cette pression de l'extérieur pour changer l'intérieur. Et encore une fois, l'émergence d'une opinion publique européenne est un fait massif, majeur. Et c'est lié à la crise. Nos concitoyens ont quand même largement mis la main à la poche pour réduire les déficits. Ils sont d'honnêtes contribuables. Ils ne supportent pas que des multinationales, parce qu'elles ont des armées d'avocats, de conseillers juridiques, parce qu'elles sont à l'abri de réglementations dans lesquelles il y a des trous, des différences entre les États membres, ne payent pas d'impôts là où elles créent des profits et de la valeur. Et donc, s'il y a eu un renversement dans l'ordre des priorités, la fiscalité n'était pas visible il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est la troisième priorité, tout simplement, des citoyens. Une fiscalité juste, une fiscalité équitable, une fiscalité transparente.
Alors, tout n'est pas réglé, loin de là. On l'a vu avec les propositions de taxes sur Google, Apple, Facebook et les autres géants du net. Là, ça bloque encore. L'Europe n'a pas trouvé d'accord pour taxer les GAFA.
Alors, ce que m'expliquait un des conseillers de Pierre Moscovici, c'est qu'on a fait beaucoup de progrès en matière de transparence fiscale grâce au scandale et dans l'urgence. Mm-hmm. Mais il me disait que c'est beaucoup plus difficile quand il s'agit d'agir en profondeur. C'est-à-dire de décider tous ensemble ce qu'on va taxer et comment on va le taxer. Il y a plein de dossiers, effectivement, qui restent bloqués au Conseil des ministres.
Et pourquoi ça bloque?
Pierre Moscovici le dit dans l'extrait qu'on a entendu. Quand on parle d'impôts, il suffit qu'un État dise non pour que tout s'arrête. Parce que quand il s'agit de changer les règles fiscales en Europe, chaque pays a un droit de veto. Pour les auditeurs qui n'ont jamais été ministres des Finances dans un pays européen, changer les règles fiscales en Europe, c'est comme essayer de trouver un restaurant qui conviendrait à un végétarien, à quelqu'un comme moi qui a fait ses premières dents sur du confit de canard, et à un autre qui est au régime et qui ne mange rien, avec l'obligation en plus de se mettre tous d'accord pour payer la même chose à la fin du repas, quand tout le monde a un veto, c'est mission impossible.
Et donc tu me disais avant d'entrer dans le studio qu'au tout début, quand l'Europe c'était juste les 6 États, on faisait tout à l'unanimité, donc il fallait que les 6 disent oui à tout pour chaque décision, mais que déjà à l'époque ça posait des problèmes. On se rappelle Charles de Gaulle qui avait tout bloqué pendant presque 6 mois quand il avait boycotté les travaux à Bruxelles. Aujourd'hui, j'imagine que ça doit être encore plus compliqué à 27 ou 28.
Alors oui, enfin, pour la plupart des sujets européens, comme l'environnement ou l'accueil des réfugiés, on se contente d'une grosse majorité pour prendre les décisions, mais pas en matière d'impôts. Là, la règle, ça reste l'unanimité, c'est la logique du tout ou rien.
Et donc pourquoi est-ce que la fiscalité restait une exception?
Tout d'abord parce qu'on parle de gros sous, mais plus fondamentalement, parce que l'impôt, c'est vieux comme les États. Organiser la collecte de l'impôt, c'est simple, c'est le rôle premier des États. Symboliquement, lâcher ça au niveau européen, ça serait très fort. Et on comprend pourquoi les États s'accrochent à leur droit de veto, comme Louis de Funès alias Don Salluste, qui a du mal à lâcher son or dans le film La Folie des Grandeurs.
Les impôts sont là, monsieur le ministre.
La gabelle, la taille, l'impôt sur les épices, pour cette année, ça fait combien?
200 000 lucas, monseigneur.
Mais l'année dernière, ça faisait beaucoup plus.
Oui, mais la récolte avait été très bonne.
Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Plus impôts, tout ça, c'est pour le roi.
Mais Don Salluste, nos gens sont terriblement pauvres et...
C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches.
Bon, et c'est d'ailleurs en réaction aux Don Salluste en tout genre que les démocraties modernes ont été créées. À l'époque, les rois levaient des taxes pour aller faire des guerres, et ceux qui étaient ponctionnés ont commencé à en avoir marre. Ils se sont réunis et ont dit qu'ils ne payeraient plus les impôts sans leur consentement, c'est-à-dire sans leur vote. C'était la naissance des premiers parlements.
Ah oui, donc c'est une question de souveraineté, mais en même temps, est-ce qu'on peut dire que les États sont plus vraiment souverains quand des entreprises géantes comme Apple ou Google leur dictent leur taux d'imposition et ou menacent d'aller ailleurs s'ils ne font pas des cadeaux fiscaux? Enfin, quelque part, les GAFA, c'est presque devenu aussi puissant que les États et par ailleurs, ça porte préjudice aux autres Européens.
Oui, mais encore une fois, l'impôt est tellement au cœur de ce que c'est qu'être un État qu'ils préfèrent tous y perdre collectivement plutôt que de perdre leur raison d'être et leur droit de veto. Et puis entre nous, certains petits pays comme le Luxembourg, l'Irlande ou le Danemark profitent bien du système. Et avec un veto, c'est pas la taille qui compte, c'est la façon dont on s'en sert.
Bon, mais donc avec un veto pour tout le monde, c'est hyper difficile de faire avancer les choses.
Exactement, mais j'ai recensé trois techniques pour contourner l'obstacle du veto. La première technique, c'est d'essayer de travailler en petits groupes, d'essayer d'avancer avec moins d'États. C'est ce qui s'est passé notamment sur la taxe sur les transactions financières.
Ah oui, la fameuse taxe Tobin, dite taxe Robin des Bois, qui vise à mettre à contribution la finance.
Voilà, et cette taxe sur les transactions financières est revenue à la mode après la crise de 2008. En 2011, la Commission propose de l'introduire au niveau européen. Tous les États sont plus ou moins d'accord sur le principe, mais certains disent « oui, on le fera, mais quand on aura un accord au niveau mondial ». Comprendre « ok, mais pas maintenant, voire jamais ». C'est un peu comme saint Augustin qui disait dans ses prières « Seigneur, fais-moi chaste, mais pas tout de suite ». Bref, comme on n'arrivait pas à se mettre d'accord à 28, 11 pays ont pris les devants avec l'aide de la Commission européenne. Alors là, on s'est dit, avec moins d'États, ça va être plus facile de trouver une solution. Problème, les 11 États ont décidé, eux aussi à 11, de décider à l'unanimité. Résultat des courses, ils ont simplement déplacé le problème. 7 ans plus tard, on n'a toujours pas de taxe Tobin en Europe.
Bon, donc première technique pour contourner le problème du veto, diminuer le nombre d'acteurs. Visiblement, les résultats sont pas mal mitigés.
Plutôt mitigés, voilà. Deuxième technique pour faire bouger les choses, la tient de Mario Monti, un ancien commissaire européen. Il est le premier à avoir, dans les années 90, fait adopter un texte sur la fiscalité à l'unanimité. Et j'ai appelé ça la technique du vieux sage.
Vas-y, raconte.
Alors la technique du vieux sage, c'est deux choses. La première, c'est de ne jamais utiliser les mots qui fâchent.
C'est quoi les mots qui fâchent? C'est genre, on te traite d'enfoiré en plénière.
Non, même pas besoin d'insultes. Pire, parler d'harmonisation fiscale, par exemple.
C'est un gros mot, ça, harmonisation fiscale?
Si tu essaies d'avoir l'unanimité et que tu lâches harmonisation fiscale dans une réunion des ministres des Finances, tu peux fâcher tout le monde pour 10 ans. Harmonisation fiscale pour un ministre des Finances, ça fait peur. Donc très vite, Mario Monti a abandonné le terme pour parler de coopération en matière fiscale. C'est plus soft, ça passe mieux. Et deuxième règle d'or de la technique du vieux sage, c'est faire des compromis. Pour arracher l'unanimité, il faut donner quelque chose à quelqu'un et en prendre à un autre. Mmh. C'est Mario Monti qui en parle encore le mieux. C'était lors d'une conférence à Nantes où il explique comment, dans les années 90, il a donc fait adopter le premier texte européen en matière de fiscalité et à l'unanimité. À l'époque, c'était l'Europe des 15.
Comment on a pu convaincre chacun des 15 à ne pas utiliser le pouvoir qu'ils avaient tous de veto? On a fait un petit paquet. Il y a presque toujours dans la vie politique ou économique des choses que quelqu'un ne veut pas et d'autres choses que la même personne ou État voudrait. Alors, on a bâti un petit paquet où chaque État trouvait une pilule amère, mais aussi une pilule douce, et fait les comptes politiques. À la fin, ils y ont tous trouvé de bonnes raisons pour dire oui, alors qu'il aurait été suffisant qu'un seul dise non et on n'aurait rien fait.
Donc ça, c'était dans les années 90, c'était avant les LuxLeaks et d'autres scandales de ce type. Et donc ça, c'était la deuxième technique, négocier, chercher une terminologie acceptable, chercher un compromis. C'est quoi alors la troisième technique qui peut permettre de contourner ce système d'unanimité à 28 qui empêche d'avancer?
Alors, la troisième technique, c'est de faire monter la pression sur les États, ne pas laisser retomber l'émoi provoqué par le scandale, et ça, c'est ce qu'a fait le Parlement européen ces dernières années. Formellement, les députés européens n'ont pas de pouvoir en matière de fiscalité, mais ils ont réussi à mettre le pied dans la porte. J'ai demandé à Philippe Lamberts, un eurodéputé belge du groupe des Verts, comment est-ce qu'ils avaient fait.
Si on s'en tenait à notre pur rôle institutionnel, on fermerait notre gueule là-dessus, puisque la fiscalité est une compétence nationale. Et donc, a priori, nous n'avons pas de rôle. Sauf que quand on commence à gratter, on peut avoir un rôle. D'abord, il y a le premier étage de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, qui est l'étage de la transparence. C'est-à-dire que la fraude et l'évasion fiscale ont besoin, pour se développer, d'opacité. Parce que malgré tout, assez curieusement, les individus et les entreprises tiennent à leur réputation. Donc, s'afficher comme un fraudeur ou un évadé fiscal, ça ne le fait pas, comme disent les enfants. Et donc, il faut que ça puisse se passer dans l'opacité. Or, nous sommes compétents pour les mesures de transparence. Autrement dit, moi, je me rappelle, c'était pendant mon premier mandat, nous avons imposé aux banques une obligation de reporting comptable pays par pays. Autrement dit, dans le cadre des grandes réformes bancaires qu'on a mises en œuvre suite à la crise, nous avons obtenu que dans la législation, on impose cette obligation qui, en fait, fait que les banques doivent donner publiquement la liste de toutes leurs entités légales dans chaque pays, le chiffre d'affaires qu'elles font, les profits ou les pertes qu'elles font, les impôts qui sont payés ou non, le nombre de personnes employées, bref, ça met de la transparence. Mmh. Et ça, le Parlement européen est compétent là-dessus. Donc sur tout le reste, les autres étages de la fusée, c'est-à-dire l'harmonisation des assiettes fiscales, l'harmonisation éventuelle des taux, on peut rêver, la mise en place d'une taxe sur les transactions financières, le Parlement européen doit juste donner son avis. Mais sur tout le premier étage, la fondation, la transparence, là, nous sommes compétents et nous ne nous privons pas d'exercer cette compétence. Par ailleurs, rien n'empêche le Parlement de s'intéresser au dossier de la fiscalité, de gratter la surface, de voir comment se fait-il que le Grand-Duché de Luxembourg fasse des cadeaux fiscaux à des entreprises, chose que Antoine Deltour a révélée avec LuxLeaks. Eh bien, le Parlement européen, à notre impulsion, a constitué des commissions spéciales et ou commissions d'enquête sur ces sujets-là, qui a aidé à faire avancer un petit peu le schmilblick pendant cette législation.
Alors, quand je l'avais interrogé dans les Vosges, le lanceur d'alerte Antoine Deltour m'avait dit que ces commissions spéciales du Parlement européen dont parle Lamberts, elles avaient bien fait avancer le schmilblick. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce que tu as pu déceler de ça?
Ces commissions d'enquête, elles n'ont pas de super pouvoir, mais elles ont permis de faire passer sur le grill des grandes entreprises comme Facebook ou Ikea. Les députés ont aussi entendu des ministres des Finances, des chercheurs et des avocats fiscalistes pour comprendre comment était montée la tuyauterie de l'évasion fiscale. Et ensuite, les députés sont allés faire des enquêtes dans les pays un peu louches. Et il y a quelques semaines, le Parlement européen a adopté un rapport dans lequel il dit que 7 pays européens ressemblent fort à des paradis fiscaux.
Alors il y a la Belgique, Chypre, Malte, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Hongrie et l'Irlande. On mettra le rapport du Parlement européen sur le site de l'émission. Bon, donc la pression monte et les choses bougent du côté du Parlement.
Et du côté de la Commission européenne aussi. La commissaire libérale, la danoise Margrethe Vestager, a commencé à attaquer des pays en justice en disant que leurs systèmes fiscaux créaient des distorsions de concurrence entre les États européens. Et elle a eu gain de cause. Et puis le commissaire français Pierre Moscovici a officiellement proposé qu'on abandonne la règle de l'unanimité en matière de fiscalité. Et ça, c'est la pichenette qui permettait de passer d'un régime vétocratique à un régime démocratique en matière d'impôts en Europe.
Waouh, c'est beau cette expression, c'est de toi ?
Ouais, mais j'y ai réfléchi longtemps.
Mais donc je te trouve super optimiste quand même, Maxime.
Bah écoute, c'est le moment des élections européennes, c'est le moment pour l'optimisme. Et puis à Bruxelles, il y a plein de jalons qui ont déjà été posés. Mais tout va dépendre de qui on envoie au Parlement européen. Historiquement, les révolutions fiscales sont parties des parlements. Alors je me dis, pourquoi pas le Parlement européen ?
Ok, les élections, ce sera le 26 mai. Et lui, Djoubaka, il a voté pour The Black Keys Low High comme musique cette semaine. Tout de suite après, on se demandera si on a une diplomatie européenne et surtout si on a des services secrets européens. Vous êtes dans Full Continental, vous nous écoutez et ça nous ravit sur la RTBF en Camargue ou sur France Inter depuis le Bois de la Cambre, depuis Gouzounia dans la Creuse, Arnac-la-Poste dans le Limousin, Chechenny en Pologne ou depuis Châteauroux comme Daniel et Josette. Et vous qui nous avez envoyé des messages, qui nous avez écouté plus d'une fois, vous savez que chaque mois, on fait une sorte de service après-vente de l'émission documentaire Full Continental. Et c'est avec toi, Maxime Galigaro, tu es un ancien eurocrate et tu reviens à l'occasion de ces mensuels sur les sujets de l'émission tels qu'ils sont vécus mais depuis Bruxelles. Tu as entendu que ces deux dernières semaines, on a parlé ici de l'Ukraine et de la Lettonie et de ces jeunes dans ces deux pays qui balancent entre Est et Ouest. Et on avait notamment organisé une discussion entre deux jeunes filles, l'une à Kiev qui avait fait la révolution de Maïdan en 2014 pour demander un rapprochement avec l'Europe, l'autre à Sochi qui travaille sur un yacht et qui soutient la politique de Vladimir Poutine. Et en les écoutant, on voyait bien qu'elles n'avaient pas du tout accès à la même information, c'était assez stupéfiant. On les écoute. Arina, tu peux me raconter l'histoire que tu avais entendue de ta copine qui disait que beaucoup de jeunes étaient payés pour aller à Euromaïdan ? C'est ça, hein, tu avais rencontré quelqu'un qui t'avait dit ça ?
Oui, exact. Enfin, ce sont des gens de Crimée qui racontaient qu'il y avait des gens de l'Ukraine qui venaient pour trouver les gens qui vont aller au Maïdan pour de l'argent.
D'accord.
Pour gagner de l'argent. Sur les enfants, on dit que, enfin, les gens qui gagnaient de l'argent sur Maïdan, ils disent voilà, avant on avait de l'argent et maintenant on n'a rien et un pays détruit.
Et ça, tu vois ça où ? Dans quelles informations ?
Sur les infos de, sur la télé.
De la télé russe.
Oui.
Et toi, Oksana, tu disais que ça, que tu n'avais pas vu des gens comme ça.
Ça me fait de la peine et carrément, ça me fait mal d'entendre ça. Mal et pitié pour les gens qui pensent ça. Parce que, comme tu le sais, Coraline, déjà, j'étais sur Maïdan, toute ma famille, tous mes amis. Je travaillais, j'étais bénévole quand il y avait les snipers, quand on aidait les blessés. On a tous quitté notre travail, des études. Moi, j'ai étudié en France en ce moment. Je suis revenue de la France. Pour quel argent ? De quel argent on parle ? On était tous pris par l'idée qu'on voulait plus le président qui était criminel, qu'on voulait des changements, qu'on voulait un pays démocratique, un pays plus libre.
Il y a clairement une guerre de la désinformation. On parle aussi de risque d'ingérence russe au moment des élections européennes en mai prochain. Alors, que fait l'Union européenne, Maxime ? Toi, tu as décidé donc cette semaine, dans ce deuxième plateau, de répondre à cette question.
Alors, je suis allé à Bruxelles et j'ai trouvé une petite équipe de 6 personnes qui a pour mission de lutter contre la désinformation du Kremlin. Donc, ils sont 6 à regarder le 20h russe, à éplucher les journaux et à surfer sur les sites du gouvernement pour essayer d'analyser le système de désinformation russe.
Donc, ça doit être assez complexe.
Complexe et aussi éprouvant. J'ai rencontré une petite main qui me disait que c'était assez fatigant, en fait, de passer toute sa journée à surfer comme ça sur une mer de mensonges.
Et tu m'as montré le site de cette petite équipe qui s'appelle EU versus désinformation. On mettra sur le site de l'émission Foule Continentale. Vous verrez, il y a la liste des plus beaux, des plus gros mensonges de la télévision russe. Ils proposent même une cérémonie des Oscars du plus gros fake. Et c'est assez marrant, ça tranche avec la communication habituelle de l'Union européenne qui, on peut le dire, et pour le reste, assez terne.
Ouais, cette newsletter, ce site a beaucoup d'humour et je pense que ces agents de la désinformation ont choisi l'humour pour garder le moral et ne pas perdre le nord, parce qu'on est parfois complètement perdu dans cet océan de fake news. Un exemple, tu te souviens de cet avion qui avait été abattu au-dessus de l'Ukraine en 2014 ? Les Russes accusaient les Ukrainiens accusaient les Russes. Un diplomate qui avait suivi le sujet de près me disait que c'était assez perturbant parce que sur les réseaux d'information russes, il était sorti près d'une dizaine de versions différentes de ce qui s'était passé. Ça, c'est une technique particulière. C'est Lutz Gellner, qui chapeaute l'unité de désinformation, qui m'a décortiqué ça.
Ça, c'est une technique qui s'appelle cloak and dagger, c'est-à-dire on cherche très très vite le narratif. Hein, c'est-à-dire, il y a une version officielle de l'Ouest et tout d'un coup, il y a une deuxième, une troisième, une quatrième et ça mène à la confusion totale et le résultat, c'est l'audience ne croit à aucune de ces différentes versions. Mais disons que c'est juste une stratégie qui existe, il y a aussi d'autres, hein. Je ne sais pas, avec des exemples qui sont carrément fausses, mais il faut que je dise aussi une autre chose, que la désinformation, ce n'est pas toujours l'information fausse. Souvent, ce sont les faits qui sont corrects, mais qui sont démesurés, qui sont hors du contexte, et qui sont mis dans un autre contexte, et qui ont l'air d'être vrais. Mais peut-être aussi de souligner, nous, on ne juge pas si c'est vrai ou pas vrai. L'objectif de tout cela, c'est de voir est-ce qu'il y a un système derrière ? Est-ce qu'il y a quelque chose où il faut vraiment faire attention ? Et pour nous donner, disons, des instruments, des réactions, on voit qu'il y a quand même un système derrière, hein, c'est-à-dire de dénigrer la stabilité de l'Union européenne, d'exposer la décadence de l'Ouest, par exemple, qui est très spécifique dans ce cas-là. Mais il faut que je dise, la désinformation, ce n'est pas un problème russe en tant que tel, c'est quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus complexe.
Donc le sujet est complexe, il est important, et à Bruxelles, il y a visiblement assez peu d'effectifs pour le tacler. Or, on nous parle de vraies menaces d'interférences, on parlait même d'interférences dans les élections partout en Europe.
Effectivement, ça reste une toute petite équipe, hein, ils sont à peine 6, et c'est rien comparé aux grosses usines à trolls du Kremlin, où des centaines de personnes travaillent nuit et jour pour infiltrer les forums de discussion et semer le doute.
Et est-ce qu'on peut dire que cette unité anti-désinformation à Bruxelles, c'est un embryon, allez, j'y vais carrément, de service secret européen ?
Pas vraiment, cette unité, elle appartient au Service européen d'action extérieure, c'est l'acronyme le SEAE.
C'est quoi ? C'est l'équivalent du CIA ou du MI6 européen ?
Pas tout à fait, mais si tu connais pas, c'est normal. On avait pensé à l'époque l'appeler le ministère européen des affaires étrangères pour que ça ait de la gueule, mais les Britanniques menaçaient de tout bloquer précisément parce que ça avait trop de gueule. Bref, on a évité les mots qui fâchent encore une fois et on a trouvé un nom un peu plus techno, un acronyme bien à la bruxelloise.
Bon, et donc qu'est-ce que c'est exactement ce service d'action extérieure, le SEAE?
C'est un embryon de diplomatie européenne. C'est pas vieux puisque le service a été créé en 2010. Et pour essayer de comprendre en quoi le SEAE diffère d'un organe diplomatique classique, j'ai discuté avec l'ambassadeur Pierre Vimont.
Alors c'est lui dont tu m'avais dit que tu étais assez excité de le rencontrer avant d'aller à Bruxelles.
Oui, parce que lui, il a été en charge de mettre sur place le SEAE. C'est vraiment la page blanche. Et avant ça, il gérait le ministère des Affaires étrangères français, le Quai d'Orsay. Donc c'est intéressant parce qu'il a une double expérience, hein, nationale et européenne.
Et tu m'avais prévenu, c'est quelqu'un qui ne perd jamais son sang-froid, même en période de crise.
Un flegme parfait, c'est lui qui avait inspiré, tu sais, un des personnages de la bande dessinée Quai d'Orsay, ce personnage de diplomate hyper posé, hyper calme, qui contraste avec la panique qui règne dans les couleurs du ministère, et dont Pierre Vimont, le vrai, m'a raconté tout aussi calmement que son personnage de BD, quelle était la différence entre le SEAE et le Quai d'Orsay. Il a commencé par me parler des bâtiments.
Les bâtiments du Quai d'Orsay, ils ont été créés et bâtis vers le milieu du 19e siècle. On a déjà plus d'un siècle et demi maintenant de travail, d'histoire, et même avant qu'on ait mis en place le bâtiment actuel du Quai d'Orsay, il y avait déjà une tradition de diplomatie du temps des monarques. Donc c'est une vieille tradition. L'Union européenne d'abord a été créée en 1957-58 avec le traité de Rome. Deuxièmement, pendant longtemps, il n'y a pas eu de politique étrangère. On commence un petit peu à parler de politique étrangère avec un rapport, dit rapport d'Avignon en 1970, et c'est vraiment le traité de Maastricht en 1992 que pour la première fois l'idée d'une diplomatie européenne commence à être élaborée. Quant à une administration en charge de la politique étrangère de l'Union européenne, c'est en 2010-2011 qu'elle est mise en place, donc il ne faut pas s'étonner qu'elle soit toute nouvelle, toute récente et que tout reste à faire en quelque sorte.
Et alors depuis 2010, est-ce que ça y est, on a des espions européens? Est-ce qu'on a des dossiers marqués secret d'État européen ou secret défense? Est-ce que ça y est, on est au niveau de la France?
Non, pour être très franc, à l'heure actuelle, la priorité de l'Union européenne, c'est plutôt de réussir à installer une culture de base de ce que doit être la diplomatie, parce que ce n'était pas le cas avant.
Donc on essaye de transformer des eurocrates en diplomates, d'expliquer comment il faut tenir sa petite cuillère quand on est invité dans une ambassade à déjeuner avec un ambassadeur.
Ça fait partie de la formation, mais précisément ce qu'on essaie de faire, c'est de mélanger les diplomates et les fonctionnaires de la commission. Un diplomate avec lequel je parlais me disait qu'en fait, le SEAE, je l'ai vu de l'intérieur, c'est comme un grand tambour. Il prenait l'image de l'accélérateur de particules. Dans un accélérateur de particules, on fait s'entrechoquer plein de particules entre elles pour en créer de nouvelles. Et là, c'est pareil, on fait s'entrechoquer des diplomates de 28 cultures différentes avec des eurocrates pour faire émerger une diplomatie d'un genre nouveau.
Et est-ce que ça marche, tous ces mélanges?
Dans les faits, ça tourne un peu au ralenti. Pendant ma visite, on m'a montré une situation room. Tu sais, dans les films américains, c'est là que le président va avec les militaires en uniforme pour suivre le déroulé des opérations en direct sur le terrain. Au SEAE, il y a aussi une situation room avec un grand écran, mais il ne sert pas vraiment. En vrai, un diplomate me disait qu'on vient là pour boire le café le matin.
Donc un grand bâtiment tout rond avec des machines à café, on dirait un peu la maison de la radio. Elle est comment, la cantine du SEAE?
De l'avis de beaucoup, c'est la meilleure cantine des institutions européennes. Et je confirme, il y a même un four à pizza.
Ah oui, donc au Quai d'Orsay, ils ont peut-être des moulures, des lustres et des plafonds hauts, mais pas de four à pizza.
Peut-être, je sais pas. Mais pour mieux comprendre quelle est la vraie différence entre le SEAE et un service diplomatique national, je te propose d'écouter un extrait du film Quai d'Orsay, inspiré de la bande dessinée dont on parlait. On y entend Thierry Lhermitte jouant le ministre des Affaires étrangères, survolté, donner la réplique à Nils Arestrup, jouant le très calme Pierre Vimont qu'on a entendu un peu plus tôt.
Je souffle à déconner. Alexandre, on a un petit problème un peu urgent, là. Je peux te voir une minute? On a un bateau en flamme avec des gars à nous au large du Lousdémistan. Il y a 200 tonnes de carburant dans les soutes. D'après notre ambassadeur, le bateau fonce tout droit sur le port de Lousdé. 4 millions d'habitants tout prêts à exploser.
C'est du terrorisme?
Non, ce sont l'erreur humaine, toute bête.
Toute bête, mais vous pouvez pas faire ça, Porcroll? Les néoconservateurs n'attendent que ça, un incident Lousdémistan, pour envoyer leurs gros marines. On va quand même pas rentrer dans une guerre mondiale à cause d'un mec qui a pas éteint sa cigarette. Bon, concentrons-nous. Il faut reprendre le contrôle de ce bateau.
Il faut que tu alertes tout de suite le président et la ministre de la Défense.
Oh putain, celle-là!
Bon, j'ai passé quelques coups de fil. On a des gars dans les parages et je les connais pas trop.
Bon, et du coup, j'ai demandé au vrai Pierre Vimont si on vivait le même genre de scène au SEAE.
Alors, dans la crise du Loosdem, qui est cette crise de la bande dessinée Quai d'Orsay, on voit le personnage que vous avez inspiré passer son temps au téléphone à essayer de concilier les intérêts du ministre de la Défense avec le président, le Premier ministre. Là, c'est pire. C'est 28 présidents, 28 ministres de la Défense.
Je dirais pas que c'est pire. Curieusement, je suis pas sûr que ce soit le même type de pression. La crise du Loosdem, comme vous dites, dans la bande dessinée, ou bien les crises de prise d'otages. Moi, j'en ai eu beaucoup quand je travaillais au Quai d'Orsay. C'est quelque chose qui vous tient jour et nuit. Des informations vous arrivent de toutes parts. C'est beaucoup plus rare dans le cadre de l'Union européenne. L'Union européenne, ça reste des crises de caractère plus politique, où vous avez plus de temps pour... la gestion de la crise se fait dans un temps plus long et avec moins de pression, me semble-t-il, au niveau européen qu'au niveau national. La différence, en revanche, et là vous avez raison, c'est que vous avez beaucoup plus d'acteurs autour de la table. Le service d'action extérieure est là, mais là vous avez en plus tous les différents États membres qu'il faut régulièrement informer, avec lesquels il faut être tout le temps en contact pour voir si eux-mêmes ont des demandes à formuler. Donc ça rend en effet le travail extrêmement compliqué compte tenu du nombre d'acteurs, mais je dirais que la pression personnelle est moins forte peut-être que ce que j'ai pu ressentir à Paris.
Bon, donc quand on est diplomate européen, on passe son temps à passer des coups de fil pour s'assurer que tout le monde rentre dans le rang et mette un avis commun, si j'ai bien compris.
C'est un peu ça, et l'exemple type, c'est le dossier russe. Tu sais, quand les Russes ont annexé la Crimée, les Européens ont répondu en imposant des sanctions à l'encontre des proches du Kremlin, des individus ou des entreprises. Et ces sanctions, il faut les renouveler tous les 6 mois, à l'unanimité.
Et donc encore une fois, comme on disait dans la première partie de l'émission, il suffit qu'un État pose son veto et tout se casse la figure.
Exactement. Et pourtant, contre toute attente, ça tient. Même Matteo Salvini et la Ligue du Nord, associés aux 5 étoiles, qui avaient pourtant promis la fin des sanctions russes, n'ont jamais posé leur veto.
Donc, en fait, la diplomatie européenne, c'est pas avoir une voix forte dans le monde, mais c'est faire en sorte que ça soit pas la cacophonie.
L'ambassadeur Pierre Vimont n'aurait pas dit mieux.
Super, ben merci beaucoup Maxime. Merci à Benjamin Riquet pour la réalisation, à Constance Cabouret pour son écoute attentive, à Martine Messonnier et à tous ceux qui ont accepté de répondre à tes questions, Maxime. Pour vous qui nous écoutez, si vous en avez d'autres, des questions, n'hésitez pas à nous écrire via la page de l'émission Full Continental sur franceinter.fr, sur la RTBF, sur Facebook, Twitter ou Instagram, où vous trouverez aussi des liens pour aller plus loin sur ces questions et les dessins de Claire Brault. Maxime, on te retrouve dans un mois et nous, la semaine prochaine, on sera en Bosnie notamment. D'ici là, lundi, on sera en kiosque dans le supplément européen de Libération, comme chaque lundi, jusqu'aux élections européennes. Bon dimanche à tous.